Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Oui, il y aura dans cet appartement 5 à 7 femmes. Elles ont leur propre chambre et comme vous le voyez, les couleurs sont gaies.
C'est un centre pour femmes en danger que vous visiterez avec nous dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe en Jordanie. Un centre pour femmes parce que, le saviez-vous, jusque-là, pour les protéger, on les mettait en prison, sous les radars. Et Amélie Perrier, avec un maître du Ping Shu qui vient de mourir, une église en héritage et un millionnaire inquiété par la junte militaire en Thaïlande. Julia Foyce, comme tous les mardis, nous parle des femmes dans le monde, en passant par la Colombie où une photo fédère toutes les femmes et la vidéo d'une compagnie aérienne, là, qui a plutôt réjoui Julia Foyce, on le verra dans un instant. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux avec cette question. Et si ça marchait, ce fameux plan russo-turc pour la Syrie, et si en fait Idlib échappait effectivement à la destruction? Mais en attendant, c'est aux États-Unis que nous allons avec Dick Howard. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Il n'est pas le seul, il est de ceux qui le disent très franchement, sans chercher d'excuses. Trump, il ne l'avait pas vu venir et du coup, il cherche désormais dans les ombres de l'Amérique et dans ses propres choix aussi, d'ailleurs, ce qui a conduit son pays là où il est et comment on avance aujourd'hui. Bonsoir, Dick Howard.
Oui, bonsoir.
Vous êtes politologue, philosophe. On vous connaît bien sûr, puisque les soirées électorales en général, c'est ici que vous les passez avec nous sur France Inter. Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump, c'est publié chez François Bourin, qui nous aide à la fois à comprendre l'Amérique telle qu'elle a voté, mais qui interroge aussi notre lecture de l'Amérique. Vous dites que vous vous sentez coupable finalement de n'avoir rien vu venir, Dick Howard. On a l'impression que vous n'avez pas su lire votre pays et que ça vous chagrine toujours terriblement en fait.
Écoutez, au début de ce livre, je dis que lorsqu'il y a eu ces affaires de Charlottesville, j'ai eu honte, comme j'avais honte quand je suis venu il y a 50 ans à Paris pour faire des études. C'était le temps du mouvement des droits civiques, de la ségrégation régnée dans le Sud, et il y avait la guerre au Vietnam, et j'avais honte d'être américain. Je me francisais autant que possible.
Aussi vite que possible.
Y compris en me mariant avec une Française, mais bon.
Pour laver la honte.
Et du coup, de fil en aiguille, j'ai participé à la vie de ce pays, et j'avais l'impression, justement, qu'il y a eu des progrès. Ce livre aurait dû s'appeler, ou je souhaiterais l'appeler, The King à Obama. Ça aurait été donc une grande histoire. Et en parlant de soirée électorale, je crois qu'on était ensemble en 2008 à New York lorsque
j'étais à Chicago et je vous ai entendu. Je me souviens que vous aviez la voix qui tremblait. Vous étiez
absolument
au bord des larmes ce jour-là. Et du coup, c'est bien ce qu'on lit dans votre livre. Avec ces 50 ans d'histoire et 50 ans aussi d'ailleurs de votre manière de voir la politique américaine, vous avez cru à un moment que ça y est, en fait. Ça y était, en fait. Ce que Martin Luther King voulait,
oui.
Obama l'avait réalisé. Et puis patatras.
Oui. Et alors, du coup, en entreprenant ce livre, ça a commencé comme une réaction à Charlottesville, à ce moment où Donald Trump dit « Ah, il y a des gens bien des deux côtés ». Ben non, c'est pas tout à fait ça. Et alors, je pensais que j'allais trouver un fil raciste qui était là. Effectivement, le premier chapitre du livre, je parle des succès d'années de la guerre civile, le racisme, ces statuts de héros confédérés, etc. Et de fil en aiguille, il m'est apparu qu'en fait, c'est pas tant le racisme, c'est le ressentiment qu'il faut traquer. Et je crois que c'est là une des thèses importantes dans ce livre, c'est-à-dire
le ressentiment social, en fait, c'est comme ça que vous l'appelez.
Et c'est au moment, la première fois qu'on l'aperçoit, c'est avec Reagan. La classe ouvrière dite blanche, n'est-ce pas, va basculer chez les républicains. Pourquoi? Je suis revenu sur cette histoire. C'est en fait à la suite de la présidence Carter. C'est au moment de la stagflation. L'inflation monte, les salaires montent, mais le barème d'impôts monte. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit Reagan? Il parle de welfare queen. Il dit, c'est justement, le racisme se mêle de ressentiment.
Parce qu'on a l'impression que seules les minorités, en fait, ont droit, notamment aux subsides de l'État, et que les blancs sont laissés de côté.
C'est nous les blancs qui payons, on a l'impression.
Mais est-ce que c'est les mêmes, du coup, Dick Howard? Est-ce que ces blancs-là, ces petits blancs, comme on l'a dit de manière très péjorative, qui ont voté pour Donald Trump, est-ce que ces petits blancs-là sont les enfants des blancs de Reagan?
Non, je crois qu'il y a une différence parce qu'en 1980, quand Reagan est élu, il y a toujours de l'industrie. Mm-hmm. La mondialisation n'entre que petit à petit. En fait, qui fait entrer la mondialisation? C'est pas Reagan en tant que tel, c'est plutôt Clinton. Mm-hmm. Et le ressentiment de ces gens qui ont refusé de voter pour Madame Clinton. Je sais pas s'ils ont voté pour Trump ou contre elle. En tout cas, c'était contre Clinton comme prophète de la mondialisation et donc de la financiarisation et tout ce qui va avec. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi ce que je traque aussi dans ce livre, c'est des transformations entre guillemets philosophiques. Il y a des périodes où l'Amérique est la culture politique américaine est plutôt libérale. Mm-hmm. C'est le libéralisme de consensus. Puis vient un moment dans les années, déjà au début des années 70, où il y a le néolibéralisme. Mm-hmm. Et troisième période, ça va être néoconservatisme.
Et aujourd'hui, comment elle s'appelle? Effectivement, vous le dites, hein, le néolibéralisme, effectivement, période Reagan, néoconservatisme, période Bush et toutes ces périodes-là. Comment elle s'appelle, la droite de l'Amérique, la droite de Trump, aujourd'hui, elle s'appelle comment? C'est quelle droite?
J'étais tenté par une réponse simplette, populiste, voire fascisante. Mmh. J'aime pas fasciste comme étiquette.
Ça ne va pas du tout.
Et le populisme, c'est encore trop vague. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment... J'ose dire, il faut faire ce que j'ai fait, à savoir, il faut vraiment regarder de moment en moment comment ça fonctionne. Vous remarquerez d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont déjà dit, tiens, bah, tu ne parles pas du tout de l'économie. Mm-hmm. J'en parle, mais je ne cherche pas une explication monocausale. Je cherche justement à voir comment ça se joue, comment ça se présente et comment ça s'ouvre.
Et alors, il y a aussi autre chose que vous soulignez très tôt et qu'on avait déjà dit d'ailleurs au moment de l'élection de Trump, c'est qu'il y a quand même une part de responsabilité qui est celle de Barack Obama, qui n'a pas voulu être le président des Noirs, ça on le sait, mais qui n'a pas voulu être le président démocrate non plus. C'est-à-dire qu'il a voulu se placer tellement au-dessus des partis qu'il a laissé son parti se liquéfier, ce qui fait une porte ouverte béante pour un Trump chez les Républicains, au fond.
C'est le dernier chapitre. Comme j'ai dit, je voulais faire de King à Obama. Il fallait quand même réfléchir. Je trouve qu'effectivement, Obama faisait ce que j'appelle dans un autre livre de l'antipolitique. Mm-hmm. Il voulait flotter au-dessus de la politique. Il ne voulait pas s'en mêler. Et d'une certaine manière, je pensais à c'est Kant, par exemple, qui dit « qui veut avoir des mains propres risque de n'en pas avoir mm-hmm. ». Et c'est un peu ce qui lui est arrivé. Et je crois que depuis 10 jours, il commence à rentrer dans la bagarre. Et c'est d'autant plus intéressant que Hillary Clinton vient de publier un article hier dans la revue Atlantic, mm-hmm. Où elle aussi, elle tire la sonnette d'alarme.
Et en même temps, est-ce que vous trouvez pas que c'est presque terrible d'imaginer que Hillary Clinton sonne le tocsin, elle a perdu ses élections et on a bien compris aussi qu'elle avait un taux de popularité qu'elle n'imaginait pas elle-même, qui était beaucoup plus bas que ce qu'elle imaginait. On remet Barack Obama, qui est toujours aussi charismatique et qui remplit les stades, on est d'accord, mais tout ça c'est le vieux monde, comme on dit nous en France en fait. Est-ce qu'il y a une nouvelle gauche américaine? Est-ce qu'il y a une autre gauche américaine? Est-ce que les démocrates savent aujourd'hui, le moment où on se parle, à 50 jours des élections à mi-mandat, s'il faut être plutôt Bernie Sanders ou s'il faut essayer de ramasser un petit peu sur le centre, est-ce qu'ils le savent aujourd'hui?
Je ne pense pas qu'ils le sachent, mais c'est très curieux que vous me posez cette question parce que je viens de faire un entretien qui est publié par le site de l'École des hautes études mm-hmm. Sur le jeune Marx et son actualité. Et je suis en train de terminer une réédition d'un livre que j'ai publié qui s'appelle « The Marxian Legacy », l'héritage marxien. Mm-hmm. Livre que dans la première édition date de 77, la deuxième, donc au moment de la fin du Vietnam, ouais. Deuxième édition 88, au moment de la société civique en Europe de l'Est et des dits nouveaux mouvements sociaux ici. Et puis, je me suis laissé convaincre que je ferais bien de faire une troisième édition car les hésitations, l'incertitude de la, disons, des libéraux américains ou des jeunes Bernie, etc., ouais. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est, soit le marxisme, soit tout simplement la théorie politique. Il ne suffit pas de faire du John Rawls, du libéralisme. Il faut mettre en question plus sérieusement la société et ses fondements.
Du coup, quand cette jeune démocrate qui a gagné les élections dans le Bronx dit « Moi, j'ose dire, je suis socialiste », est-ce qu'elle sait de quoi elle parle?
Non.
Ou pas?
Non, je pense pas. Mais... Quand j'entrais en politique, dans le mouvement des droits civiques, dans le mouvement contre la guerre, dans l'STS de l'époque, je ne le savais pas non plus, mais je savais qu'il y avait quand même, en principe, une théorie, quelque part, et il fallait l'étudier, fallait le trouver. Ce pourquoi, d'ailleurs, je suis arrivé en France en 66, lorsque la France représentait ce qu'il y avait de plus avancé de la gauche.
Bon. Et aujourd'hui, on a du mal à savoir où elle se situe, la gauche américaine. Qu'est-ce que vous... On sait bien que on a une vision qui est beaucoup trop européenne, en fait, de ce qui se passe chez vous, Dick Howard. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de cette tribune du New York Times, cette tribune anonyme venue de la Maison Blanche qui dit « Nous sommes la résistance ». Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous ?
Ça m'a inspiré l'idée qu'il y avait des gens qui avaient honte de ce qu'ils font, mais continuent à le faire, et ils songent, ils savent très bien que Trump ne va pas durer éternellement et qu'il faut sauver leur réputation. Et deuxièmement, je pensais que si la démocratie a besoin d'une résistance cachée, qu'elle est dans une très mauvaise passe.
Mais j'allais dire, pourquoi est-ce que la résistance serait cachée, tant qu'à faire? Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas ouverte? Je veux dire, on est en démocratie, après tout.
On peut dire beaucoup de choses du gouvernement de Trump et des excès de Trump, mais pour l'instant, on n'a pas été arrêté. Si je pense à ce que j'ai dû vivre dans les années 60, quand j'étais dans l'opposition, il y avait quand même des provocations, il y avait quand même des arrestations, il y avait quand même... il y avait des dangers. Soyons réalistes.
Et il n'y a pas eu non plus d'énormité à la George Bush, une invasion de l'Irak ou des choses de ce genre-là. Pour l'instant, en tout cas, en ces deux ans de Donald Trump, non mais c'est quand même important de le dire.
Oui, et d'ailleurs, en plaçant Trump, quand même, il faut aussi jamais oublier le 11 septembre 2001, qui suivait cette élection de George Bush en 2000, élection
très
truquée.
Très calamiteuse, notamment truquée en Floride.
Et que c'est à partir de là que les théories de conspiration commençaient à surgir, parce que qui pouvait imaginer la chute de ces deux tours? Il fallait, c'est là où viennent les idées justement de conspiration. Ah, c'était pas ces avions, au contraire, c'était la CIA qui avait planté des dynamites dans les tours.
On s'en souvient. Dick Howard, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'a déjà fait Trump. Est-ce qu'on se trompe, y compris de notre manière de l'attaquer? Cet anti-Trumpisme, et chez vous particulièrement, y compris dans les journaux. Il va y avoir le film de Michael Moore qui va sortir dans quelques jours aujourd'hui, qui est toujours efficace à la Michael Moore, évidemment. Mais est-ce que tout ça, finalement, ne sert pas plus Trump qu'autre chose? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec une société qui sera de toute façon encore plus polarisée? Et ceux qui sont pros le resteront, ceux qui sont anti le resteront, et puis rien ne bougera.
Si vous voulez, il y a quand même... Une autre thèse de mon bouquin, c'est justement la dépolitisation de la vie politique américaine, c'est-à-dire que c'est devenu non pas des compétitions entre adversaires, c'est devenu une guerre entre ennemis. Mm-hmm. Et du coup, il devient impossible de, par exemple, confirmer un juge à la Cour suprême, ce qui est le cas
en ce moment même, au moment où on se parle, exactement.
C'est drôle de pays, cette Amérique, à cet égard.
Dick Howard, juste une dernière question. Vous le dites au tout début, l'arrivée de Trump remet brutalement en question le sens que je donne au fait d'être américain. Est-ce que vous vous êtes retrouvé, vous, comme américain, désormais, deux ans après, ou presque deux ans après? Est-ce que vous avez retrouvé l'Amérique un peu?
J'ai retrouvé l'Amérique, je crois, mais toute ma vie, depuis 50 ans, je passe entre les deux pays. Et si j'écris un livre comme ça, c'est parce qu'il y a l'effet d'étrangeté d'écrire ça pour un public français. J'aurais jamais pu écrire ça en anglais. Il n'y aura jamais de traduction, ou du moins pas de ma main. Voilà.
Eh bien écoutez, nous on l'a, en tout cas, entre les mains. Ça s'appelle « Les ombres de l'Amérique » de Kennedy à Trump. C'est aux éditions François Bourin, Dick Howard. Vous êtes évidemment toujours le bienvenu sur France Inter. On aura l'occasion de se retrouver très très vite, parce qu'il y a une petite élection à venir qui nous intéresse un tout petit peu chez vous aux États-Unis. Merci beaucoup.
France Inter. Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, c'est en Jordanie avec le tout premier centre pour femmes en danger qui a ouvert dans ce pays sous les radars et Amélie Perrier, très tournée vers l'Asie ce soir avec un Chinois grand adepte du Pingshu, un art ancestral. Il vient de mourir, c'était une superstar. On parlera aussi d'une église en héritage, c'est en Corée. Julia Foyce a bien compté, comme tous les mardis, un homme sur deux et bien une femme. Ce qui nous emmène, Julia, en Colombie notamment.
C'est ça, on part de la Colombie pour suivre ce grand vent de solidarité qui a embrasé toute l'Amérique latine sur les réseaux sociaux et personnellement ça m'a donné une sacrée patate.
Eh ben écoutez, tant mieux, le monde à l'envers et Jean-Marc Four, la patate aussi Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec la Turquie qui tire sérieusement ses marrons du feu.
Écoutez, la Syrie nous a habitués au pire, toujours le pire, et si cette fois il y avait un espoir raisonnable d'éviter le carnage à Idlib.
Eh ben on verra ça ensemble, il sera 18h55, à tout à l'heure, le tour de la planète continue dans Un jour dans le monde, bien sûr, c'est la Sou, la Belge, ragamuffin. Yeah. Oh.
Never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You put a sending all my love. It's giving me no choice. No, no, no. Open as a freedom fighter, he's handling the choice, and I know that. The dear Rockamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. The dear Rockamuffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. Still remember you and what we used to have. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, 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 oh yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh yeah. What you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, should I not fall down? See, it's the wisdom of a not to fool around.
Elle s'appelle C'est la Sou et elle est belge, mais c'est pas grave. Oh, pardon, ouais, on peut plaisanter un peu.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Oh, écoutez, je me fais charrier par Charline tous les jours. Hein. Paf, comme ça par derrière. Allez, Amélie Perrier, sous les radars, l'info qui a échappé à votre attention, mais pas à celle d'Amélie Perrier. On commence par la disparition d'une superstar en Chine.
Une star du Pingshu.
Il y a un vieux.
Il y a peu de chances que vous connaissiez le Pingshu, hein, je crois. Nishan Tianfeng. Non, pas le Pikachu, le Pingshu.
Jean-Marc, si vous venez donc d'abord dans le studio, c'est pas pour dire des bêtises.
Le Shan Tianfeng qu'on entend là, ce maître en la matière, il vient de plonger une partie de la Chine dans le deuil. Il est mort à l'âge de 83 ans. Le Pingshu, en fait, c'est un art ancestral, une forme de récit oral des contes dynastiques. Le récitant porte une robe traditionnelle derrière un bureau, face à un public, dans les maisons de thé. Et les meilleurs utilisent plusieurs voix. Ils exagèrent leurs gestes, ils surjouent pour captiver leurs auditeurs. Shan Tianfeng était le plus célèbre car il a fait sortir le Pingshu des maisons de thé pour le diffuser à la radio. Ici, c'est la vidéo d'un chauffeur de taxi. Donc, on est dans la voiture, on écoute Shan Tianfeng comme beaucoup de chauffeurs
c'est Pierre
de
Bellemare,
taxi.
Quoi.
C'est un peu ça, effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Pingshu est devenu, en fait, un acte de rébellion pendant la révolution culturelle dans les années 60. Shan a alors acquis l'image d'un contre-révolutionnaire. Il a été condamné aux travaux manuels dans le nord du pays, car il était un érudit. Il a débarrassé les contes du Pingshu des superstitions, des fantaisies. Il s'est appuyé, en fait, sur des recherches historiques méticuleuse pour ses performances. Et Chan, il a enregistré en tout pour la télé et la radio 12 000 épisodes, 6 000 heures de récits épiques. Et quelques jours avant sa mort, l'infatigable narrateur annonçait le lancement d'une nouvelle série en direct sur le Twitter chinois. Seule la mort donc pouvait faire taire une telle voix.
Et voilà, il reste le podcast, j'imagine, y compris en Chine. En Thaïlande, c'est la voix d'un jeune millionnaire que la junte voudrait faire taire.
Il vient de lancer son parti politique et là, il s'appelle Thanathorn Juan Krun Kruang. Alors le voici en meeting, relayé sur sa page Facebook. Il est très applaudi, le jeune millionnaire, il a 39 ans, mais il vient d'être inculpé. Raison officielle, il aurait diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux. En fait, là, il accuse la junte militaire, dans une émission diffusée en juin, de tenter d'intimider ses rivaux avant les élections de l'an prochain. Et pour ça, eh bien, ce millionnaire risque, avec deux autres membres de son parti, 5 ans de prison et de lourdes amendes. Or, toute personne reconnue coupable d'infraction pénale est interdite d'élection selon la constitution révisée en 2016 par les militaires. La vie politique bouillonne en ce moment en Thaïlande. De nouveaux partis se créent, chez les agriculteurs notamment. La junte a accepté un léger assouplissement des règles. Les partis sont autorisés à recruter de nouveaux membres, mais ces nouveaux membres, eh bien, ils ne sont pas autorisés à faire campagne.
Au nom du père, du fils et d'une richissime église en Corée du Sud cette fois.
Oui, on termine avec un héritage qui ne passe pas avec l'une des plus grandes églises presbytériennes du monde. Elle s'appelle Myung-sung. Elle a été fondée il y a 40 ans et compte aujourd'hui 100 000 fidèles.
Alléluia. 2002년 추수감사절을 맞이했습니다.
Alléluia, oui, c'est une petite entreprise très prospère puisqu'elle possède d'abord une église monumentale reconnaissable à Séoul par ses deux grandes flèches noires, une chaîne de télévision évangélique également, deux hôpitaux, un centre médical en Éthiopie, deux écoles, une crèche, des centres éducatifs à travers le pays. Bref, un empire spirituel et matériel que le fondateur, le pasteur Kim Sam-wan, a décidé de léguer à son fils, Kim Ah-na. C'est pas le premier à vouloir transmettre ainsi son église dans un pays où le protestantisme est la religion la plus répandue, devant le bouddhisme, oui. Mais depuis 5 ans, l'organisme qui coordonne toutes ces institutions a interdit les successions héréditaires. Alors là, Kim se défend de népotisme car il a démissionné 2 ans avant de donner les clés à son fils. Mais ça ne passe pas. 900 pasteurs ont manifesté contre et des étudiants en théologie se mettent à boycotter les cours. Kim, face aux attaques, se défend avec ses arguments bibliques, évidemment. Les démons nous attaquent, a-t-il lancé dans un sermon la semaine dernière.
C'est bien connu. Moi, j'ai retenu surtout qu'Alléluia en coréen, ça se dit Alléluia. Amélie Ferrier, merci beaucoup, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes
France Inter.
L'escale reportage d'un jour dans le monde et pour la Jordanie ce soir. Et tiens, ça va vous intéresser, Julia Foyce. Écoutez ça. Jusque-là, les femmes menacées de mort par leur mari ou un homme de leur entourage étaient incarcérées en prison pour leur protection, ce qui est quand même un comble, mais c'est fini. L'État vient d'ouvrir un centre d'accueil et de réhabilitation pour aider ces femmes qui sont en danger et menacées de ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Bonsoir, Jérôme Grozewski.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Jérôme, vous avez pu visiter le premier centre dont la localisation évidemment est tenue secrète et on comprend pourquoi. Vous nous y emmenez.
Une solide grille gardée par deux policiers de hauts murs. Ici, la sécurité est la priorité. Mais il faut aussi que les nouvelles pensionnaires se sentent bien. L'accent a donc été mis sur le confort. Rahda Alazé, la directrice du centre, nous fait visiter les locaux.
And living room also, dining room.
Il y a un tapis de course, le salon, la salle à manger, la cuisine. Elles ont le choix. Elles peuvent cuisiner ou bien il y a ici un cuisinier.
Et elles partagent cet espace-là?
Oui, il y aura dans cet appartement 5 à 7 femmes. Elles ont leur propre chambre et comme vous le voyez, les couleurs sont gaies.
C'est une chambre double.
Oui, si nous avons besoin de plus de lits, nous pouvons réaménager les chambres dans le centre. Aucune femme ne va dormir dehors.
Et là, il y a un petit lit pour bébé. Les 20 femmes qui logent dans ce centre de réhabilitation sont menacées de mort par un homme de leur famille, un mari, un père, un frère, qui veut soi-disant restaurer l'honneur de la tribu en éliminant une femme qui aurait eu un mauvais comportement. Il s'agit souvent, mais pas toujours, d'adultère. Ces femmes, auparavant, étaient en prison. C'est ainsi que l'État jordanien les éloignait de leurs potentiels agresseurs pour les protéger. Amira, ce n'est pas son vrai nom, a passé 15 ans derrière les barreaux uniquement parce qu'on lui voulait du mal.
Pff, 15 ans, ma vie est fichue. N'allez pas penser que je suis heureuse. Regardez à quoi je ressemble. Je suis entrée en prison, je ressemble à une poupée. J'en suis sortie, je ressemble à une centenaire. C'est un sentiment formidable de dire que ces femmes ne seront plus en prison maintenant. En prison, tout le monde se mêlait des affaires des autres. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Au centre, au moins, ces femmes y vont de leur propre volonté. Elles ne sont pas forcées. Et c'est ça la grande différence.
La différence également, c'est que des psychologues, des psychiatres, des avocats et des formateurs vont travailler avec ces 20 femmes au centre pour les préparer à sortir bientôt, pour qu'elles trouvent un travail et qu'elles mènent au fond une vie normale. Rahda Alazé, la directrice du centre, nous fait visiter le deuxième étage.
C'est notre salon de beauté et nous avons ici tout ce dont les femmes ont besoin pour se faire belles. Du maquillage, de quoi couper les cheveux. Et il y aura ici un formateur qui pourra donner aux femmes qui en ont besoin une formation.
Une formation en coiffure?
Oui, et nous avons passé un accord avec une organisation non gouvernementale pour qu'elles reçoivent un diplôme, pour faciliter leur insertion professionnelle en dehors du centre.
L'une de ces organisations non gouvernementales qui intervient au centre, c'est Mizan. Eva Abou Alaoué en est la directrice. Elle connaît bien les nouvelles pensionnaires du centre.
Nous allons aider ces femmes à développer des projets personnels parce qu'elles n'ont pas vocation à vivre dans ce refuge très longtemps. Certaines voudront rentrer dans leur famille. Il faudra alors faire un travail de médiation avec l'entourage. Pour d'autres femmes, elles voudront alors se former au niveau professionnel et avoir des compétences nouvelles. D'autres encore ont des problèmes juridiques à régler. Nous les aiderons avec des avocats pour trouver des solutions à ces questions.
Where we have lawyers and we represent them to follow up on their legal issues.
Cet accompagnement personnalisé témoigne d'un changement lent mais important au sein de la société jordanienne. Désormais, l'État se mobilise pour prendre soin de ces femmes en danger. Les médias locaux, les hommes politiques et notamment le roi Abdallah ont aussi incité les hommes jordaniens à respecter davantage les femmes et à revoir leur conception du couple et de la famille. Des efforts qui ont porté leurs fruits. Asma Khader est une avocate féministe.
L'an dernier, il y a eu une baisse de 60% du nombre de crimes perpétrés contre des femmes sous le prétexte qu'il faut restaurer l'honneur de la famille. Il y a eu 6 meurtres, donc oui, il est possible de mettre fin au phénomène. Parce qu'il y a plusieurs années, ces crimes étaient nombreux. 17, 20, 22, 29, 40. Chaque année, la tendance va dans le bon sens.
La tendance va dans le bon sens car la justice aussi est plus sévère avec les auteurs de ces crimes en Jordanie. Auparavant, une disposition du code pénal permettait à ces hommes de ne passer qu'un à deux ans en prison seulement. Cette disposition a été abrogée en novembre dernier. Désormais, les criminels qui disent agir pour rétablir l'honneur de leur famille sont traités à égalité avec les autres meurtriers et ils encourent en Jordanie la peine de mort.
Preuve qu'on avance doucement, hein, mais on avance. Jérôme Boruzewski en Jordanie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Jérôme. On va rester autour des mêmes thèmes, tiens.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
We're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Et Julia Foy, c'est dans la place, mesdames, messieurs, car un homme sur deux est une femme, comme chacun c'est sait. C'est bien le principe. Bonne et mauvaise nouvelle sur le front des femmes, toutes les semaines avec vous, Julia. On commence par la femme de la semaine, tiens, et elle est colombienne.
Oui, elle s'appelle Aileen Moreno. À 29 ans, elle fait rêver ses 37 000 abonnés avec les selfies qu'elle poste régulièrement sur Instagram. Aileen à la plage, Aileen sur un plateau de tournage, Aileen en loge maquillage, etc. Starlette montante du petit écran, la bomba latina qui met le feu aux telenovelas, elle l'incarne parfaitement. Non. Elle l'incarnait. La bombe, c'est elle qui l'a larguée la semaine dernière. Et le feu, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a pris avec cette nouvelle photo de l'actrice. Visage tuméfié, regard éteint, pansement sur le nez. Elle couvre de la main gauche son œil au beurre noir. En légende, un appel à toutes les femmes victimes de violences à sortir du bois pour dénoncer leur agresseur. Une semaine plus tôt, déjà, une vidéo d'Aileen Moreno était devenue virale sur tout le continent latino-américain. La jeune femme se filmait sur son téléphone, en larmes, en sang. Elle appelait au secours. Les images datent du mois de juillet dernier. Elle y raconte comment son ex vient de la rouer de coups parce qu'elle a refusé de lui montrer des messages reçus sur son portable. L'ex, aujourd'hui, nie. La justice ne l'a pas poursuivi. Alors, la colère d'Aileen Moreno est montée. Alors, la vidéo. Alors, la photo. Et ça s'est embrasé. Depuis, ce sont des hashtags, des mots-clés qui circulent et fédèrent. Yo si denuncio, je dénonce. Ou bien, no una más, pas une de plus. Surtout, il y a ce flot de photos saisissant, continue ce code visuel repris par tous. La main gauche sur l'œil gauche et l'œil droit planté dans l'objectif. Les regards sont noirs, pleins d'espoir ou de larmes, ça dépend. Les peaux sont claires ou ambrées, lisses ou ridées, peu importe, tout le monde y va. Beaucoup de femmes, des hommes, quelques-uns. C'est un père qui pose avec sa fille, c'est une mère avec son fils. Ici, c'est un couple, là, un groupe de collégiennes. Partout, la même détermination, partout, le même ras-le-bol. Jusqu'à la vice-présidente colombienne, Marta Lucia Ramirez, qui, à son tour, se joint au mouvement, promettant de tout faire pour que ces violences cessent. Elle a du boulot. D'après les Nations Unies, 37% des Colombiennes seraient victimes de violences conjugales. Et ça, c'est pas de la telenovela.
Alors, l'homme de la semaine, qui est-ce?
Ah, mais j'hésite la toujours. Belgique et Yann Fabre, hein, ou la Suisse et Tariq Ramadan. Bon, allez, je vous fais les deux ex aequo. Dans une lettre ouverte, une vingtaine de collaborateurs du chorégraphe belge dénoncent le harcèlement sexuel dont ils sont victimes. Menaces, chantage, humiliation, tout y est, semble-t-il. Réponse du staff. Tout le monde le sait, Yann a une forte personnalité et un style singulier en tant qu'artiste. Mais personne n'est obligé de s'adonner à des comportements qu'il juge inappropriés. Ah bah oui, elle pouvait dire non, pourquoi ils n'y ont pas pensé? Je sais pas, peut-être parce qu'il a un style singulier, une forte personnalité, l'artiste. Bon allez, Tariq Ramadan, mis en examen en Suisse ce week-end après une nouvelle plainte pour viol déposée contre lui, la troisième si on compte les deux plaintes françaises. Sa défense, elle, ne bouge pas d'une ligne réaffirmée par son frère Bilal la semaine dernière dans les colonnes du journal Le Temps. C'est un complot au plus haut niveau de l'État, affirme-t-il. La pensée de Tariq dérange, on veut le faire taire. Et donc, je résume la suite, on invente des histoires de viol alors que tout au plus, il s'agit, bon ok, de relations extra-conjugales. De rapports de nomination sortent un petit peu fougueux et violents sur les bords, mais librement consentis de part et d'autre. S'appuyant là-dessus, ses avocats français devraient à nouveau demander, à l'issue d'une nouvelle confrontation avec une plaignante, la remise en liberté de Tariq Ramadan, et à terme, ils devraient pouvoir l'obtenir. En France, les condamnations pour viol ont baissé de 40% ces 10 dernières années, d'après les dernières statistiques du ministère de la Justice, alors même que les plaintes, elles, n'ont cessé d'augmenter. 98% des violeurs finissent en liberté. On a dit quoi déjà? La parole s'est libérée? Ah oui, c'est juste qu'on l'entend toujours pas.
Allez Julia, un petit rayon de soleil quand même, un poil d'espoir avant de terminer,
non,
s'il vous plaît.
On va pas se quitter comme ça.
Non.
La bonne nouvelle nous vient de Grande-Bretagne et plus précisément de la compagnie aérienne EasyJet avec cette nouvelle campagne. La scène se passe dans l'aéroport de Southend à Londres. Une limousine blanche se gare sur le tarmac, les portières s'ouvrent, on sort une grappe de petits garçons habillés en steward. Traversant l'aéroport, il donne le bras à une petite fille portant, elle, l'uniforme de pilote, tête haute, grand sourire et belles lunettes de soleil au vert fumé. Elle bombe le torse, rayonnante de fierté. La scène, évidemment, parodie le film Catch Me If You Can de Spielberg avec Leonardo DiCaprio dans le rôle du pilote flamboyant. L'idée de la compagnie est de susciter des vocations chez les filles pour atteindre les 20% de femmes dans leur futur recrutement. Pour info, dans le monde, seuls 5% des pilotes sont des femmes. Et je sais pas vous, Fabienne, mais moi, ce spot-là, il me donne une sacrée patate.
Voilà, ça me donnerait presque envie de piloter, dites-moi. Et Julia Foyce, merci, à mardi.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le président, les présidents turcs et russes, Erdogan et Poutine, donc, ont sorti de leur manche hier, un plan pour éviter un drame humanitaire à Idlib en Syrie. On est tellement habitué aux catastrophes en Syrie qu'on a presque du mal à y croire, mais pourtant, vous vous dites, pour une fois, ça pourrait fonctionner.
Alors, je vous livre la formule d'un diplomate qui connaît bien le sujet. il y a une chance pour que ça marche. Alors, comme les diplomates sont d'une prudence de sioux, il faut pas attendre davantage d'optimisme non plus, mais c'est déjà pas mal. Oui, il y a un petit espoir que cette proposition turco-russe permette d'éviter le carnage. Rappelons que 3 millions de personnes environ se trouvent dans cette région d'Idlib, qui est la dernière à résister aux forces d'Assad après plus de 7 ans de guerre. Il y a un petit espoir d'abord parce que, précisément, c'est une proposition turco-russe. Autrement dit, les deux poids lourds étrangers engagés dans le conflit syrien se sont entendus. Et leur accord est assez précis. Ils veulent donc mettre en place, entre Idlib et la frontière turque, une zone démilitarisée d'environ 15 km de profondeur. Seuls les civils pourraient y pénétrer. Pas d'armes lourdes, pas de mortiers, pas de lance-roquettes. Et tous les accès à la zone seraient contrôlés par des patrouilles conjointes, j'ai bien dit conjointes, des armées turques et russes. C'est quand même pas rien. Alors évidemment, Erdogan comme Poutine, c'est pas les bisounours, c'est pas Mère Teresa, donc ils y voient leur intérêt. La Turquie veut éviter un nouvel afflux de réfugiés sur son sol. Rappelons qu'elle en accueille déjà plus de 3 millions là aussi. Et elle veut également asseoir son influence dans la zone. La Russie, de son côté, ne veut pas se fâcher avec la Turquie, elle voudrait surtout pas la voir revenir du côté occidental. Et Moscou profite de l'occasion pour apparaître dans la région comme le faiseur de paix, le seul interlocuteur qui parle à tout le monde. Vous savez ce qu'on appelle en anglais « the honest broker », le courtier honnête. Pour parvenir à cet accord, Erdogan et Poutine ont eu, semble-t-il, hier une discussion qu'on va qualifier de franche et virile. Mais maintenant qu'ils ont trouvé un accord, ils sont plutôt du genre à vraiment chercher à le mettre en œuvre.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que les autres pays qui sont impliqués dans le conflit, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, c'est-à-dire ne rien dire, laisser faire?
Là encore, on peut faire le pari que ça marche. Parce qu'en fait, ça arrange plein de monde que la Turquie et la Russie se chargent de faire le boulot, comme on dit. L'Iran d'abord. Ce matin, Téhéran a officiellement salué l'accord turco-russe. Il est possible que les Iraniens ne souhaitent pas s'investir militairement davantage en Syrie. Ils ont d'autres soucis et en plus leurs milices et leurs alliés, les milices de leurs alliés, le Hezbollah, ne semblent qu'assez peu présentes factuellement dans la région d'Idlib. Donc l'Iran pourrait observer une certaine neutralité. Les Occidentaux, on va dire franchement, ils sont en dehors du jeu, ils semblent dans l'incapacité d'agir. Donald Trump n'a qu'une idée en tête, c'est se retirer de Syrie. Et les Européens, eux, on le sait, ils ont pour priorité d'éviter une nouvelle vague de réfugiés syriens. Donc si la Turquie fait le boulot, c'est un souci de moins. Le seul risque pour l'Europe, c'est une confusion générale dans la région qui provoquerait l'infiltration progressive de djihadistes à nouveau sur le sol européen.
Donc ça veut dire, pardon, hein, mais qu'on n'est pas sorti des ronces, en fait.
Bon, ça je vous l'accorde, il y a une chance, je vous le disais, pour que ça marche, mais évidemment, il y a plein de facteurs qui peuvent tout faire capoter. Le premier de ces facteurs, c'est Assad. Le président syrien a promis, je cite, de libérer Idlib et chaque mètre carré du territoire syrien. On peut dire qu'il avance pas masqué. Jusqu'à présent, dans les autres régions, il a toujours fini par donner l'ordre d'attaquer. Et en plus, il a gagné à chaque fois. Donc on voit mal pourquoi il renoncerait cette fois-ci. Par-dessus le marché, il ne supporte pas l'ingérence turque. Donc la question, c'est de savoir si Poutine peut retenir Assad. On verra. Deuxième incertitude. Comment on va faire? Comment vont faire concrètement les Turcs et les Russes pour séparer, j'allais dire, le bon grain de livret? Les civils des djihadistes, n'autoriser que les premiers, les civils, dans la zone démilitarisée. Dans cette zone d'Idlib, dans la région d'Idlib, on estime la présence djihadiste à plus de 50 000 combattants, regroupés pour moitié sous la bannière d'Ayat Tahrir al-Sham. C'est une sorte d'héritage d'Al-Qaïda, si vous voulez. Avec beaucoup de combattants étrangers et des spécialistes de l'infiltration, c'est-à-dire parfaitement capables de passer inaperçus au milieu des civils et donc de se retrouver dans cette fameuse zone démilitarisée. Erdogan et Poutine se donnent un mois, jusqu'au 15 octobre, pour mettre en place cette zone tampon. C'est un sacré défi parce que 4 semaines, ça laisse largement le temps pour que se multiplient les provocations, les mises en scène macabres et que se déclenche un nouvel engrenage de guerre. L'attaque contre un avion russe, aujourd'hui, montre qu'en Syrie, tout est possible d'un instant à l'autre et surtout le pire. Mais pour une fois, il y a donc à Idlib un petit espoir d'éviter le pire.